Merci. Tous les deux.
Tu as un micro ?
Oui, j'ai un micro. Merci. Pour ouvrir le débat, je commence par Frédéric. Quel texte ? Oui, beaucoup de questions, beaucoup de points importants. Je commence un peu par la fin, juste pour mettre en exergue cette thèse dont tu soulignes, tu me penses, que je pense important, que je voudrais retenir. L'inconscient existe à tout discours, y compris le discours analytique. Donc ça, je pense qu'il faudrait le retenir. Ça, c'est juste une petite remarque. J'ai une question à propos du lien que tu fais entre religion et politique. Je te cite plus ou moins. Tu dis que depuis l'époque de Lacan, il y a une nouvelle alliance, si j'ai bien compris, entre la religion et le capitalisme, et la religion et la science. Pourquoi nouvelle ? C'est ça ma question. Qu'est-ce qui est de nouveau depuis Lacan ? Enfin, il me semble que Lacan n'a pas dit le contraire. Il n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'alliance entre religion et politique. Et il y aurait aussi peut-être des thèses sociologiques qui nous montrent plutôt que la religion alimente le politique et le capitalisme en l'occurrence. Donc voilà, c'est ça ma question. Quoi de neuf ? Enfin, pourquoi une chose nouvelle depuis Lacan ? Une deuxième question, enfin il y a plein de questions. Dieu est inconscient, c'est déjà une thèse difficile. Tu passes, Dieu c'est la politique, avec un saut effectivement logique, en passant par l'inconscient c'est la politique. Je pense que ça demande un développement. Et puis une dernière chose un peu plus légère peut-être, je ne sais pas. Je n'oserais pas ne pas être exactement d'accord avec toi sur l'indifférence de Lacan comme de Freud quand il dit en matière de politique. Parce que si je bien saisis, c'est que ces termes-là, indifférence en matière de politique, que Lacan reprend dans Science et Vérité et dans les séminaires sur l'éthique, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'effectivement, il met en question cette indifférence en politique. C'est pas la position de Freud qui se réclame en politique d'une certaine manière, mais voilà une petite un éclaircissement sur ça. Bon. Il y a plein d'autres choses, mais voilà pour entraîner une première petite ouverture. Je ne sais pas si je passe à Albert ou si tu veux nous dire quelques petits mots. Je passe à Albert comme ça. Alors, des choses nouvelles. Tu nous mets au courant de beaucoup de choses nouvelles. L'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses à découvrir. Alors, une question très générale qui, je pense, traverse un peu ton texte aussi. Je trouve ton texte déjà. Effectivement, tu soulignes la capacité de Lacan de prédire ce qu'il a fait au niveau des gadgets, la question de la religion, la ségrégation, etc. qu'est-ce que nous, on pourrait, en tant que psychanalyste d'aujourd'hui, prédire avec ces nouvelles données? Est-ce qu'on pourrait...
On va tout créer dans
la catastrophe.
Prédire quelque chose que la catastrophe, finalement.
C'est la question que je pose.
Oui, c'est ça.
Que je me pose,
pose. Qu'est-ce qu'on pourrait prédire?
Bien sûr, mais...
Parce que Lacan prédit quelque chose, quand même. Est-ce que nous, on aurait cette capacité-là?
C'est bien la question que je me pose. Je suis absolument certain de la puissance de Lacan. La prédiction. Je suis moins certain de la nôtre.
De la nôtre.
Pardon. Ce que je veux dire, c'est qu'il me semble qu'il y a une question actuelle pour nous. Quoi. C'est-à-dire que, parce qu'on, comme tout le monde, on reçoit quantité astronomique d'informations. Si on se penche sur la question, on s'aperçoit que ce sont des questions qui sont vraiment débattues dans certains cercles. Et il m'arrive de penser qu'il ne faudrait pas qu'on arrive en retard. Et que donc, c'est pour ça que je parle de s'informer. Moi, je ne dis pas qu'il faut suivre ces thèses, pas du tout. Mais en tout cas, c'est important de savoir où ils en sont, parce qu'ils ont des moyens... en particulier financier, que nous n'avons pas. Alors, je suis pas très porté.
Trésorier
de l'école. Trésorier, confirmé, d'accord. Je suis pas très porté du côté de la catastrophe, parce que si vous voulez, ce qui me semble, c'est qu'il y a une sorte d'engouement, il y a un développement très rapide, mais il m'étonnerait qu'il ne rencontre pas des problèmes. Et que ça va les calmer. Ça va les calmer, parce que pour le moment, tout roule. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est complètement... D'ailleurs, Lacan en avait parlé de ça, de cette question de l'argent. Et le monde est gouverné par ça. Et donc, pour le moment, tout va bien. Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, tout va bien. Mais il va peut-être y avoir un moment où ça va coincer, et en particulier, justement, dans des moments de passage, par exemple, de l'IA faible à forte, ou dans les manipulations génétiques qu'ils produisent, il va y avoir des problèmes. Et ça, ils n'ont pas imaginé qu'ils auraient des points de butée et qu'éventuellement, ils n'arriveraient pas à endiguer ce qu'ils auraient provoqué, justement, comme catastrophe. Donc ça me paraît... je ne vois pas que ça leur arrive pas. Puisque à nous, il nous en est arrivé plein de catastrophes. Donc je ne vois pas pourquoi... Mais non, parce que pour le moment, tout ça est très joli, mais enfin, si je puis dire, ce sont des humains.
C'est très récent.
C'est très récent, c'est très rapide, mais ça reste malgré tout des humains. Et je note que, à part ce fou de Warwick, les autres ne se sont pas implantés quoi que ce soit. Mais ils font beaucoup d'argent grâce à nous.
Est-ce que tu as écouté France Culture sur la table?
Non, je ne peux pas tout faire.
C'est la même chose.
J'ai bien que vous l'écoutiez.
Je l'écouterai en replay.
C'était la même chose.
Ce que je regrette, c'est que vous avez apporté beaucoup d'informations que vous avez, que nous n'avons pas tous.
Oui.
Et vous n'avez pas fait état des polémiques internes, entre les spécialistes de toutes ces petites machines, disons.
Oui.
Et ils ne sont pas tous du tout sur la ligne de ceux que vous avez cités. Donc il y a des polémiques internes dès maintenant.
Dès maintenant, oui.
Alors,
oui, je n'ai pas voulu faire trop long là-dessus, mais parce qu'évidemment, il y a Il y a des conflits déjà, enfin il y a non seulement des débats, mais il y a des oppositions. Il y a forcément d'ailleurs des oppositions sur la manière d'opérer, sur la manière de faire progresser les choses. Et en particulier en France, il y a ce qu'on appelle des techno-progressistes qui, eux, ne veulent pas, si vous voulez, qu'il y ait un progrès technique sans qu'en même temps on envisage les répercussions sociales, morales, éthiques, etc. Et ils sont très opposés, pour le coup, à ceux qui veulent augmenter. C'est l'association française de transhumanisme.
Non, je ne parlais pas de ça. Je parlais de, sur le pouvoir des machines.
Oui, oui.
Est-ce qu'on peut anticiper du pouvoir des machines? Évidemment, nous, de notre position d'ignorant, on n'a rien à dire. Enfin, on ne peut pas savoir ce que va être l'avenir des machines.
Bien sûr.
C'est pour ça que je suis, moi, j'aurais été intéressée, je regrette, d'avoir une information sur les débats internes, parce que ce sont des spécialistes qui ont tous les mêmes informations sur l'état actuel du développement des machines, et certains ne partagent pas le point de vue que les machines vont finir par arriver à dominer l'homme, etc.
Absolument, bien sûr, bien sûr. Oui, ça c'est vrai.
Et avec des arguments précis, je crois.
Oui, oui. Mais si vous êtes, si vous voulez vous informer sur la question, le Forum européen de bioéthique, là il y a des interventions très intéressantes. Et on trouve ça facilement, on tape Forum européen de bioéthique 2017, et vous avez toutes les interventions et tous les débats surtout, qui ont été filmés, enregistrés. Mais vous avez raison, hein, faut pas croire que c'est unanime. Il va y avoir des bagarres entre eux. Et de toute façon, la grande bagarre, ça va être entre les GAFA et le BATX. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr parce que les Chinois ont très mal supporté l'histoire du champion de Go qui s'est fait balayer par l'ordinateur. Et donc, ils sont en train, eux, plutôt de s'orienter du côté génomique et donc fabriquer des humains avec des QI à je ne sais plus quelle hauteur. Bon, c'est un peu inquiétant parce que comme vous le savez les Chinois sont nombreux. Oui, ils ont déjà commencé à sélectionner les embryons. Ils disent rien mais ils le font. Parce qu'ils n'ont pas les préoccupations éthiques que, par exemple, on entend ici. Tout normal de modifier la chose. Alors peut-être que j'exagère aussi, c'est-à-dire que entre les Chinois, il va y avoir des positions différentes.
Frédéric, tu viens d'en vivre petite chose.
Des choses moins générales, peut-être enfin, moins sur juste l'inconscient existe à tout discours, c'est pas toute une thèse de moi.
Oui, on peut.
J'aimerais bien, mais.
Honnêtement, trop tard.
Trop tard.
Mais voilà. Ça se trouve, page 518 des autres écrits. Hein.
D'autres textes disent
sauf phallustérique. Oui, mais je ne suis pas rentré dans le déclinement de ça. Les religions et le capitalisme et tout. Alors ça me paraît une forme d'évidence, donc du coup, Lacan s'intéresse beaucoup à la religion catholique romaine, entre autres, c'est pas une religion qui est connue pour son encouragement du progrès technique. Même si conflit entre le scientifique et l'Église catholique romaine. Ça commence avec Galilée, etc. Enfin, ça commence d'ailleurs bien avant. Et donc, la religion catholique romaine s'accommode du progrès, ou en tout cas du progrès, enfin, de la progression des connaissances scientifiques. Il y a la question du darwinisme, enfin, tout ça. Ça, c'est l'horizon dans lequel est Lacan. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est la façon dont les considérations religieuses s'annexent des objets technologiques et les utilisent comme outils de guerre, de propagande, des outils financiers, etc. Enfin, l'idée dans laquelle on a vécu très longtemps, je crois. Enfin, moi, j'y étais pas, mais qui avait le camp progressiste, le camp des Lumières, etc. Et puis qui avait le camp religieux qui freinait plutôt ce supposé progrès. Enfin, c'est une idée qui traverse tout le 20e, à peu près tout le 20e siècle. Et qui doit être, à mon avis, un peu reconsidéré. Enfin, peut être un peu reconsidéré aujourd'hui. Alors, quand je parle d'indifférence en matière de politique de Freud comme de Lacan, c'était une manière. Tout ça, c'est en partie pour. Enfin, tout n'est pas sérieux. Mais enfin, je pense que si on essaye de thématiser ça un peu plus précisément, il y a quand même quelque chose qui est commun entre Freud et Lacan, j'insiste, qui est la différence pour la politique. Si tant est qu'on valide l'opposition que je fais, qui est aussi artificielle, entre là et le. Il y a une indifférence, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce refus que je pense important de s'engager du côté d'un parti, quel qu'il soit, ouais, ça existe. Il y a aussi des psychanalystes qui n'ont pas cette indifférence. Ça existe aussi. Donc, et qui prétend être des acteurs politiques. Lacan n'a jamais prétendu être un acteur politique et Freud non plus. Bon, enfin, disons pour soutenir maintenant, pour aujourd'hui, la distinction le-là, quoi, par exemple.
C'est le Lacan qui a dit qui nous écrira un commentaire sur l'ouvrage
sur la différence en matière
de politique.
Oui, c'était un peu critique.
C'est même très ironique parce que l'ouvrage de Lamennais, il comporte 26 volumes, donc moi, qui va l'écrire, la note de lecture de Lamennais pour la revue.
C'est assuré en différence en religion, je pense.
En
matière de religion. Patrick, Marie.
Oui, c'est pour alimenter le débat avec Albert. Puisque à la matinale de France Culture,
que je n'ai pas entendu, mais.
J'en suis, et sachant le thème de ton intervention, j'ai écouté ça avec beaucoup d'attention. Et la question qui était traitée, débattue ce matin, c'est la question que tu posais : la machine prendra-t-elle le pas sur l'homme ? Avec ce que tu m'as posé aussi de possibles intentions hostiles. Alors, un des participants, qui a été nommé, qui s'appelle Jean-Gabriel Canascia, a sorti un bouquin qui s'appelle Le mythe de la singularité. Alors, le terme de singularité n'est pas le même que
le nôtre. Oui, oui.
sous la singularité technologique, c'est le moment où la machine va tellement s'emballer que justement elle va dépasser ce pour quoi elle a été conçue. Donc lui, il n'est pas du tout inquiet. Il pense que c'est un vide, qu'il n'y a pas lieu de penser que la machine, finalement, pourra aller au-delà de ce qu'on lui a fourni, grosso modo, et que la grosse différence, enfin, moi j'étais assez convaincu par son argumentaire, c'est que il n'y a pas d'intention chez la machine.
Oui, c'est bien le problème.
Il n'y a pas d'intention, et donc...
Sauf à être Foucauldien, et là on lui en prête une.
Oui, on prête une, mais si on la mise dedans, quoi. Et donc.
Il y a toujours des artilleurs pour tirer au canon.
Et donc, oui, c'est que. Donc, pas d'intention. Aussi ce qui se passe, la différence, ce que tu disais sur la prédiction, lui disait autre chose, enfin, par rapport à la différence machine-homme, c'est que la machine ne permet pas de saut épistémique. L'homme, lui, a sa capacité du saut épistémique, alors que la machine, jusqu'à présent, même AlphaGo, qui a battu le joueur mondial, c'est pas un saut épistémique, c'est une capacité à...
Capacité, bien sûr.
Voilà. Et on se disait que tout connecté que sont les par-lettres dans l'avenir, ils sont toujours pris dans le pas de rapport sexuel.
Dans le futur.
C'était la réflexion que nous avions. Donc, ça ne va pas régler le problème.
Ah mais oui, ça va pas régler le problème, ça c'est sûr.
Ça veut dire qu'ils ont des problèmes de couple, de sexuel, tout ça, sont toujours là.
Oui. Enfin, c'est-à-dire que pour
moi, avec machine ou pas machine.
Je suis d'accord.
Plusieurs problèmes.
Oui, c'est possible.
Il y en a un, c'est effectivement la question, et c'est un petit peu la même question que le politique, enfin la psychanalyse et la politique, ou la psychanalyse et le politique, etc. Moi, d'abord sur la question de la religion et la psychanalyse. Enfin, non, la religion et le développement de la science. Il y a un exemple que j'aime bien, qui est qu'effectivement, l'Église a toujours prôné un maintien des choses en l'état. Alors, ils ont eu une aventure comme ça. Ça a été l'écriture de la musique. Pour qu'on ne fasse pas de musique nouvelle, il a fallu la noter. Et du coup, ça a été l'explosion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a écrit la musique, en effet, on a fabriqué de la musique. La musique qui n'était pas de la musique liturgique. Donc, je veux dire, cet effet inverse, c'est-à-dire cet effet en quelque sorte à l'envers de l'Église, et puis c'était un grand combat dans l'Église entre ceux qui étaient pour la musique et ceux qui étaient contre. C'est un grand débat dans toutes les religions, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a toujours une opposition sur ce point. Ici. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne me semble pas que la religion... disons que le rapport entre la religion et la science, je ne vois pas là quelque chose de spécialement nouveau dans ce rapport. Qui est compliqué et qui va avec des espèces d'interdits, mais c'est des interdits qui favorisent le développement de la science, d'une certaine façon. Donc c'est une sorte d'aller-retour. Alors maintenant, ma question porte aussi sur la psychanalyse, c'est-à-dire, j'ai pas le... J'ai, je ne vois pas bien ce que... Enfin, je pense qu'il y a un danger effectif. Enfin, il y a un risque avec ces... Mais ce que je vois moins bien, et c'est peut-être que tu as des... pour nous éclairer là-dessus, c'est ce que je ne vois pas très bien, c'est le rapport entre le... disons, les nouvelles technologies, on voit bien que ça présente des dangers pour la santé publique, par exemple, etc., dans le, l'usage des ordinateurs, tout ça. Ce que je ne vois pas bien, c'est comment on va faire du nouveau, puisque c'est ça que tu dis. On ne peut pas toujours, effectivement, rester en deçà de Lacan. Donc, comment on va faire du nouveau par rapport à ces objets nouveaux, c'est ça la question.
Ouais. Oui, je me pose tout à fait la question dans ce sens. Hein, mais ce qui me semble, c'est que finalement, c'est-à-dire on a beaucoup lu Lacan, on est chacun arrivé à un certain point de notre lecture, mais on commence à... Comment dire? Il me semble qu'on voit un peu plus clair qu'il y a quelques années dans le mouvement, le développement de l'enseignement de Lacan. Et au fond... c'est pour ça que j'ai fait ce texte d'ailleurs, c'est que je me suis aperçu que en particulier les dernières années de l'enseignement, disons, nous permettent de réfléchir par rapport aux problèmes qui sont posés avec ces histoires d'objets connectés, de téléphones, parce que c'est quand même, faut admettre que c'est déjà largement dans nos vies, hein, ne serait-ce que les téléphones portables et les ordinateurs. Donc ça produit, enfin moi je commence à voir des patients qui parlent de ça, et qui amènent au fond des questions qu'on n'a pas traitées dans la décennie d'avant. Donc je me dis que il y a quelque chose qu'on a à travailler concernant la fin de l'enseignement de Lacan, de rendre ça, disons, un peu plus, je ne sais pas comment dire, effectif. Parce que, par exemple, pour prendre un exemple simple, on dit, c'est la période des nœuds. Enfin, il y en a quelques-uns ici qui s'intéressent vraiment de près à la question. Mais, par exemple, ça, comment ça se traduit dans notre clinique quotidienne, il me semble qu'on a des efforts à faire. Pour piger ce que Lacan a, lui, avancé avec ça, et on sait très bien, enfin ceux qui le lisent en tout cas savent très bien que Lacan lui-même cherchait, se trompait, revenait en arrière, essayait une autre façon. Bon. Et moi, il me semble qu'on est un peu court encore par rapport à ce qu'il a avancé. Mais j'ai l'idée que peut-être les patients d'aujourd'hui, sont plus clairement dans la question de la jouissance que les patients d'il y a 20 ans, mettons. Il me semble que c'est plus sensible. Et en particulier, il y a ce côté aujourd'hui de fous-moi la paix, c'est ma vie, je vis ma vie, my own life, etc. Bon, tout ça. Et au fond, au plus simple par rapport à la pratique, il me semble qu'il y a les anciens patients et les nouveaux. Et que c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait les mêmes questions. Et il me semble que par rapport à ça, on a un travail à faire. C'est ça que je veux dire. Hein.
Oui, là, Marc,
oui. Voilà une question précise concernant notre pratique. J'ai déjà posé à l'occasion, elle continue de m'interroger. Elle est simple, la question. Est-ce qu'on peut pratiquer la psychanalyse par Skype ou non? Oui ou non?
Ah, tu veux que je réponde?
Oui.
Je ne suis pas pour.
Ah oui, mais oui ou non? Oui ou non, parce que...
Je ne suis pas pour, je ne le ferai pas.
De très bien, je pense que beaucoup d'entre vous ne le fassent pas. Pourrons-nous longtemps ne pas le faire?
Je me pose cette question à partir, parce que j'ai vu qu'il y avait des... La médecine qui se développait, etc., avec des sites, avec des tarifs remboursés par la sécu.
La sécu rembourse.
La sécu rembourse, je sais. Et donc, en effet, la question va nous arriver un jour.
La sécu, elle rembourse. Ce ne sont pas des analyses, Marc, déjà.
Non, ce ne sont pas des analyses. Pour le moment, ce ne sont pas.
La sécu rembourse. Et alors, on n'est pas spécialement remboursé, de toute façon. Donc, ça ne change rien.
Non, mais c'est l'entrée dans le champ de la médecine,
c'est
de l'image.
Oui. La psychanalyse ou pas,
c'est
une question. Est-ce que ça contredit la psychanalyse ou pas?
Oui.
C'est plutôt de ça qu'il s'agit. C'est
moi,
pas
il me semble que, oui. Il me semble que oui, pour la, dans la mesure où on s'aperçoit qu'enfin, en tout cas, c'est l'idée que j'en ai, que plus le temps passe et plus je suis porté à penser que l'analyse est une affaire de corps.
Oui,
c'est
corps.
Et que la présence réelle du corps.
Il y a là un vrai problème.
Et pas l'image. C'est une image,
c'est
une
microscopique.
Vous avez une image.
Je voudrais bien demander à Frédéric de nous dire comment il entend. Comment vous entendez la phrase que vous avez citée, la psychanalyse est une pratique sans valeur? Parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de façons de l'apprendre et je me demande comment vous l'apprenez. Alors, mon autre question, ce n'est pas une question, c'est une remarque, c'est sur la notion d'intelligence analytique. Ça vous donne des boutons, cette notion.
Pourquoi?
Parce que, bah d'abord, parce que l'intelligence a peu de place dans l'analyse. Pour faire une analyse, il n'y a pas besoin d'être intelligent. Lacan a dit beaucoup de mal de l'intelligence. Lacan lui-même a dit beaucoup de mal de l'intelligence.
Oui, mais il était intelligent.
Alors, il pense qu'il était intelligent, pas de doute, mais intelligence analytique, l'acte. Ça ne pense pas. Donc, on peut avoir de l'intelligence analytique au niveau de l'élaboration théorique. Et d'ailleurs, c'est là que, à ce niveau que vous l'avez pris, parce que, et pas au niveau de la pratique, vous l'avez pris au niveau de la théorie, puisque vous dites qu'il a. Vous définissez apparemment cette intelligence par le fait de prédire. Alors, il a prédit beaucoup de choses. Et pas toutes se sont réalisées. On a au moins une qui ne se réalise pas, en tout cas pour l'instant, hein, ça va peut-être venir. Il prédit la montée de la religion catholique. Bah, mais c'est pas pour aujourd'hui tout de suite. Il a prédit, il y a des gens quand même qui ont
tout de suite. Il s'est juste trompé de religion.
Il s'est bien trompé. La religion peut être au monde, mais la catholique, elle rentre. Pour l'instant, donc, les prédictions de Lacan, je veux dire,
c'est
réducteur de ramener à sa prédiction.
Oui.
Je ne serai pas d'accord avec vous sur la question de la religion catholique. La réponse de l'Occident aujourd'hui, c'est une réponse catholique.
Oui, mais Lacan, quand il parle de la religion, il ne parle pas de la réponse de l'Occident.
Oui, mais d'accord, mais c'est...
catholique, Rome...
Oui, mais on voit que l'Occident aujourd'hui est infiltré par la religion catholique et la pensée de la religion catholique. La réponse qu'on donne aujourd'hui quand on dit...
Il n'a pas encore disparu. Oui, elle est beaucoup moins prégnante, moins forte qu'elle n'était, qu'elle n'a été dans les siècles passés, et même dans le XXe siècle.
Mais ce qu'on a entendu, tu en auras pas ma haine qui nous a. C'est une réponse religieuse, plutôt catholique. C'est ça que je veux
dire. Oui, non, mais je ne vous dis pas que la religion catholique n'a plus d'influence en Occident. Ça ne va pas vite, ces choses-là, ça se déplie sur longtemps. Si on regarde la courbe de la puissance qui a été celle de l'Église catholique romaine, sa puissance financière, sa puissance politique et sa puissance générale dans l'opinion, cela quand même, c'est la pente très descendante. Et c'est pas une remontée. Il avait prévu une montée. Ça me paraît. Enfin bon, c'est pas capital dans nos discussions.
Il s'est peut-être trompé sur le diagnostic de vraie religion.
Ça peut être en plus. Ça c'est encore
une autre. Elle n'a peut-être pas vu tout faux, mais. T'es trompée dans la religion.
Non mais, bon alors, je continue mon dialogue avec Albert. Intelligence analytique, je n'aimais pas trop, mais si on le prend pour le plan théorique, on peut le garder, mais moi je ne l'aurais pas défini par la prédiction. Je l'aurais défini par la construction qu'il a faite, qui est extraordinaire, toute la construction des structures successives qu'il a construites. À partir de la linguistique, de la logique, et puis finalement le fameux jeu. J'ai été surprise au moment que vous fassiez donner un tel poids à la prédiction.
Ah oui. En même temps,
je pense que ça se défend l'histoire de la prédiction aussi.
Il y a quelque chose qui est décillé pour la capacité de prédire. Qui veut dire qu'on a traversé un certain nombre de questions, comme par exemple celle de la mauvaise ou de la bonne intention de l'autre, qui est celle de, j'insiste encore, de type Foucauldien. Quand on a dépassé ça un peu, on peut regarder les choses en face. Peut-être d'une autre manière, donc ça peut conduire à finalement une lucidité.
Enfin, oui, on peut se dire que pour bien prédire, il faut avoir bien structuré le réel auquel on a affaire. Donc, bien sûr. Mais ce n'est qu'une retombée, la prédiction. Enfin, bon, on discute, hein,
souvent.
Il y a une question derrière, ça parle.
Poser une petite question, une petite remarque. Je me demandais si vous feriez finalement le lien, vous avez parlé de nouveaux patients peut-être par rapport à il y a 20 ans, et je me demandais si on pourrait faire un lien avec cette première vision de Freud par rapport par exemple aux névroses actuelles qui finalement regroupaient par rapport au problème de la sexualité à l'époque, pour son époque, une espèce de fourre-tout sur des gens qui finalement avaient du mal à élaborer quelque chose. Et là, je me disais, par rapport à ces nouvelles technologies, vous avez l'impression que les patients aujourd'hui seraient différents du fait d'être happés par ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose au niveau de la structure qui, finalement, pourrait se rejoindre?
Au niveau de la structure?
Clinique.
Vous voulez dire quoi? De la structure clinique?
Oui, il y a quand même.
Non, c'était à propos de la prédiction. Il me semble qu'il y a quand même toute une partie de l'enseignement de Lacan qui effectivement est prise là-dedans. C'est celle tout simplement de l'oracle. C'est pas par hasard qu'il met l'oracle dans. C'est-à-dire que dans l'affaire de la prédiction, il y a plusieurs ordres de prédiction, je dirais. Il y en a une qui est effectivement. Possible à partir d'une certaine traversée, c'est ce qu'il développe à propos de l'oracle.
Donc c'est quand même une forme de prédiction.
L'oracle, ça fait des séances, ça ne prédit pas le réel, ça nous détermine.
Oui.
C'est plus du côté, c'est une parole qui est, comment on dit, performative.
Oui, oui.
Donc ça détermine un avenir.
Oui,
mais ce n'est pas l'anticipation de cet avenir.
Il y a un certain effet d'oracle chez Lacan, en tout cas dans le discours analytique. Sur le discours analytique, et d'ailleurs si on se lamente aujourd'hui d'une certaine chute, c'est parce qu'on a l'idée qu'on n'a pas les mêmes capacités oraculaires, en tout cas en ce qui concerne le discours analytique, c'est ça. Et on a, c'est quelque chose où on est en déficit, semble-t-il.
Colin Sebaillon, s'il vous
plaît. Oui, petite question à Albert. Je comprends que tu t'intéresses à l'intelligence artificielle parce que justement, depuis, je dirais, 10 ans, un certain type de patients, un certain type de plaintes, soit des patients eux-mêmes, soit par rapport à leurs enfants, leur famille, etc., tournent autour de la façon dont le téléphone en particulier ou l'ordinateur peut prendre une place à considérer dans les rapports. Mais d'abord, qu'est-ce qui te fait penser ? Il y a deux points. D'abord, ceux qui viennent nous rencontrer parce qu'ils s'en plaignent, c'est déjà une chance. Il y aura peut-être un moment où toute une partie des gens seront si heureux d'être connectés. Enfin, ce ne sera plus un symptôme gênant pour les personnes connectées. Ce sera un symptôme gênant peut-être pour leur entourage. Mais donc, tant qu'ils continueront à venir s'en plaindre, bon, c'est un moindre mal. Mais pourquoi tu imagines qu'il nous faudrait opérer différemment devant ce mode de jouissance particulier ? Tu avais l'air de sous-entendre que devant ça, il faudrait qu'on puisse réfléchir à notre acte ou en tout cas envisager notre action, notre efficacité autrement. Je ne crois pas. Je crois qu'il faut être patient. Ça suppose une patience peut-être accrue, mais à partir du moment où ils viennent s'en plaindre, il n'y a pas changer notre mode de pratique.
Oui, oui.
Peut-être j'ai mal compris.
Non, mais c'est-à-dire que les personnes dont tu parles, ce sont certaines de ces personnes. Mm-hmm. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on reçoit des gens qui se plaignent de quelque chose, mais qui n'est pas la plainte ne porte pas sur la connexion. Mm-hmm.
Et on découvre, soit on
s'en aperçoit, parce que par exemple on va chercher quelqu'un dans la salle d'attente qui est collé à son truc, et il voit même pas qu'on a ouvert la porte, enfin bon, un à qui je demandais, que faites-vous ? Et il me dit, je passe le temps. C'est une réponse. Et au fond, à partir de ça, c'est un jeune homme, il a pu parler justement de comment dans sa vie, il était tout le temps avec ça. C'est-à-dire que dès que je n'ai pas une activité, je regarde. Alors je lui dis, mais vous regardez quoi ? Et il me dit, mais rien, je fais défiler. Et il se défile pour le coup dans cette affaire et il me dit mais on est tous comme ça aujourd'hui, on est tous comme ça, et c'est au point que j'ai entendu, quelqu'un m'a dit que dans les collèges il y avait un problème parce qu'au moment des intercours il y a un grand silence. Avant c'était très animé, et maintenant ils sont tous avec leur truc, c'est dès qu'ils ouvrent la porte de la classe c'est pour se coller à ça. Et au fond, ils ne se parlent plus entre eux.
Ils regardent au restaurant.
Et c'est pour ça que c'est silencieux.
Ils
passent
la tête dans les collèges, dans les restaurants, c'est comme ça.
Il paraît qu'à l'éducation nationale, ils ont interdit les
Ils envisagent de l'interdire.
Ils envisagent.
Ils ont beaucoup de mal.
Mais qu'est-ce que ça change à notre pratique? C'est, je reviens oui, oui. à ma question.
C'est une addiction.
Parce que dans les écoles, parce que moi je reçois beaucoup en institution, dans les écoles, ça entend, ça s'engueule, ça chamaille, ça.
Facile, mais.
Il n'y a pas que ça. C'est vrai, il y a ça, mais il y a aussi.
C'est pour ça que je disais qu'on était dans une période transitoire, c'est-à-dire où on a des patients de types différents. Et certes. Pardon ?
Je crois que ça
ait
un lien du tout avec des patients différents.
Il faudrait le micro. Il faudrait le micro pour l'enregistrement.
Oui, non, mais je pense que ça disait, je ne trouve pas du tout en affaire à des petits collégiens, etc., qui est plus de place pour leur petite histoire d'amour, d'exclusion, de groupe, tout ce qui se passe. C'est sûr qu'il y a ce petit objet d'un téléphone, mais moi, il n'y a pas toute la place. Je n'envisage pas qu'ils me prennent complètement. Ils viennent encore nous raconter plein d'histoires.
D'accord.
D'ordre fantasmatique, de rêves. De...
Peut-être que c'est dans les collèges de province.
Bon, je ne suis pas en province du tout. Hein.
Mais nous, oui.
C'est en province. C'est pas le collège.
Frédéric, tu dis un mot, la psychanalyse, quand on pratique, c'est à l'heure. Oui, c'est l'heure.
C'est le goût, sauvé par le goût.
C'est l'heure du champagne.
Bon, c'est l'heure du champagne.
Non, attendez. Personne ne bouge.
Alors pour dire en un mot, je pense que cette phrase elle est assez difficile, essentielle même. Et que il s'agit dans la psychiatrie de déplacer la question de la valeur, de déplacer la valeur à la question de la valeur. De localiser autrement la valeur, et que cette phrase de Lacan fait suite à des années et des années de séminaires où il traite de la question sous des tas d'angles différents et aussi sous l'angle de Marx. C'est pour ça que j'ai fait une petite allusion à une définition alternative du capital.
Merci. Une petite annonce. C'est samedi de 14 à 18 heures. L'école 14 organise un après-midi préparatoire du débat pour l'actualisation de la politique de l'école. Ici, Médassas, de 14 heures à 18 heures. Merci.